à la hauteur.
Simon Martin,
Émilie Glory. Avec l'aide de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bonjour à toutes et à tous. Dans À la hauteur aujourd'hui, nous accueillons un grand nom de l'alpinisme, mais aussi de l'escalade. Catherine Destivel a accepté de répondre à nos questions et a même choisi pour nous une ascension qui lui tient à cœur. Puisant dans son impressionnant palmarès qui compte nombre d'exploits, elle nous propose de la suivre dans les Alpes suisses, sur la face nord de l'Eiger.
La difficulté de l'ascension de l'Eiger par la face nord tient à ce qu'il faut non seulement vaincre un mur de 1800 mètres de calcaire friable et de glace, mais en plus affronter une formidable mythologie. Or, dans toutes les escalades, les épreuves les plus difficiles sont mentales. Il faut parvenir à maîtriser sa peur grâce à une sorte de gymnastique psychologique. Mais la sinistre réputation de l'Eiger est suffisamment intimidante pour ébranler l'assurance de quiconque. Près de 2000 articles de journaux et de magazines ont évoqué les événements macabres survenus sur le Nordland. Les jaquettes de livres comme « Eiger, le mur de la mort » nous remettent en mémoire des réalités incontournables. La face nord a vaincu des centaines d'alpinistes et en a tué 44. Parfois, c'est plusieurs années après que l'on a retrouvé des victimes desséchées et démembrées. Le corps d'un Italien est resté pendu au bout de sa corde pendant 3 ans, hors d'atteinte, mais bien visible, tantôt scellé à la paroi par le gel, tantôt se balançant dans le vent de l'été. L'histoire de la montagne abonde en combats menés par des hommes plus grands que nature, comme Bull, Bonatti, Messner, Rebuffa, Terré, Aston et Harlin, pour ne rien dire d'Eastwood. Les passages qui jalonnent l'escalade, la traversée Interstosser, la cheminée de glace, le bivouac de la mort, l'araignée blanche, sont familiers à tous les alpinistes de Tokyo à Buenos Aires. À la seule mention de ces noms, tout grimpeur sent ses paumes devenir moite. Les chutes de pierre et les avalanches qui surviennent continuellement sur le Nordland sont célèbres. Tout comme le mauvais temps, même quand le ciel est bleu sur le reste de l'Europe, de violentes tempêtes s'abattent sur l'Eiger, semblables à ces masses de nuages noirs qui stagnent au-dessus des châteaux transylvaniens dans les films de vampires. Inutile de préciser que tout cela fait de la face nord de l'Eiger l'une des escalades les plus recherchées du monde.
Le journaliste et alpiniste américain John Krakauer plante ainsi le décor de sa propre ascension du géant suisse dans son livre « Rêve de montagne » sorti en 1999 aux presses de la Cité. Oui, l'Eiger est un sommet mythique, et cette fameuse face nord a longtemps été l'un des 3 derniers problèmes des Alpes, une formule pour réunir les 3 voies qui ont donné du fil à retordre aux alpinistes des années 30. Les faces nord des Grandes Jorasses, du Cervin et donc de l'Eiger. Pour se mesurer à cette époustouflante paroi, il faut du courage, certes, mais aussi et avant tout une préparation sérieuse qui assure mieux que toutes les cordes du monde. Et pour réaliser une première sur cette face nord légendaire, il faut tout le talent d'une Catherine Destivel.
Les Drues, la face nord de l'Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses. Catherine d'Estivel est à ce jour l'unique femme à avoir accompli ces grandes ascensions en solitaire. Des exploits qui ont marqué toute une génération et l'ont fait entrer dans la légende de l'alpinisme. En juin 1991, elle ouvre une nouvelle voie de 1000 mètres dans la face ouest des Drues. Cette ascension va durer 11 jours. 11 jours seule, à avancer de piton en piton, à s'acharner, à s'agripper, à chercher à l'instinct l'itinéraire dicté par la ligne naturelle de la paroi. Ce 26 juin, Catherine est dans le passage clé de son ascension. Une fissure de quelques millimètres de large seulement. Elle mettra 5 jours pour franchir ce seul obstacle, obligée de monter sur des pitons aussi fins que des lames de rasoir. Cette nouvelle voie dans les Drues ne sera jamais répétée.
En 1992, l'alpiniste et escaladeuse a déjà gravi en solo intégral des parois vertigineuses dans le monde entier. Elle vient en outre de réussir un exploit, ouvrir une nouvelle voie dans la redoutée face ouest des Drues, voie qui se nomme logiquement désormais la voie d'Estivel. En 1992 donc, forte de ce palmarès qui lui vaut le respect de ses pairs et d'une réputation de surdouée, Catherine d'Estivel se lance un autre défi, celui de gravir, seule, toujours et en plein hiver, la face nord de l'Eiger, le tout sans reconnaissance préalable. La suite, c'est elle-même qui nous le raconte.
Bonjour Catherine d'Estivel, nous sommes heureux de partir avec vous aujourd'hui sur les pentes de l'un des sommets les plus majestueux des Alpes, l'Eiger. Alors pourriez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, le replacer géographiquement pour nos auditeurs?
Alors l'Eiger se situe en Suisse, au-dessus de Grindelwald. Et c'est une des plus hautes montagnes en dénivelé d'Europe. Ça fait 1800 mètres de dénivelé, pratiquement. L'Eiger est connu pour sa face nord, qui a été le dernier problème des Alpes résolu en 1938.
Alors oui, cette face nord de l'Eiger, elle est devenue mythique. Qu'évoque pour vous cette légende de l'Eiger? Et y a-t-il des précurseurs qui vous ont inspiré pour réaliser vous-même cette ascension?
Quand on est alpiniste, on se dit qu'on, si on fait la face nord de l'Eiger, on devient un vrai alpiniste. C'est une face qui, malheureusement, a été connue de façon assez dramatique. Car on disait, jusque dans les années 60, 50% des alpinistes qui tentaient cette face se tuaient. Donc malheureusement, c'était souvent lié aux chutes de pierre, et au fait que cette paroi soit immense, c'est compliqué de sortir très vite de là. Et en plus, il y avait un hôtel au pied de... Il y a toujours un hôtel au pied de la paroi, ce qui fait que les journalistes suivaient ça de très près, en direct, et racontaient tout ce qui se passait, et c'était assez sordide. Et c'est pour cette raison que l'Eiger a eu cette réputation d'être... Ils l'ont très vite appelé Ogre. Alors je crois que l'Eiger, ça n'a rien à voir avec l'Ogre. Mais bon, très vite, le nom a été assimilé à l'Ogre, qui mangeait donc les alpinistes.
Et sur la question des précurseurs, est-ce que parmi les grands alpinistes qui ont gravi cette face nord, il y en a peut-être qui vous ont inspiré?
C'est pas tant les alpinistes qui m'inspirent, c'est le fait de faire. Bon, j'étais connue pour le rocher, etc. Et j'estimais que on me traitait d'alpiniste, alors j'estimais que je n'étais pas encore une alpiniste. Et du coup, j'ai eu très envie de faire la face nord de l'Eiger, mais je voulais pas que ce soit une première féminine. Je voulais que ce soit une première tout court. Mm-hmm. On est tous un peu prétentieux dans... Les alpinistes sont ambitieux, prétentieux, orgueilleux, tout ce qu'on veut, à moindre mesure. Mais du coup, moi, j'avais envie que ce soit juste une première, et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup lu sur cette face, pour savoir comment les autres y étaient pris, pour ceux qui l'avaient fait en solitaire. Parce que mon objectif, c'était aussi de le faire en solitaire, en solo, toute seule, sans assurance. J'ai très vite trouvé le comment faire une première, c'était de le faire sans reconnaissance préalable. Tous les autres avant moi l'avaient fait une fois en cordée pour reconnaître la paroi avant. Voilà. Donc et après, j'étais très ennuyée parce que je voulais évidemment pas prendre de risques. Je me suis dit, quand même, je vais pas, pas me tuer pour une montagne. Et du coup, j'ai essayé d'analyser pourquoi tant de gens s'étaient tués ou avaient eu des accidents. Et c'était essentiellement lié aux chutes de pierres. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de le faire en hiver, quand toutes les pierres sont enchâssées dans la neige et la glace. Il n'y a plus rien qui bouge en hiver. Mmh. En plus, il y a presque personne en paroi. Enfin, si, il y a des alpinistes de temps en temps, mais enfin, c'est très rare. Ça aurait été un hasard improbable qu'il y ait quelqu'un juste devant moi le même jour. Voilà. Et c'est les autres aussi qui peuvent être dangereux pour vous, quoi.
Mmh. Alors, revenons-en à votre histoire particulière avec ce sommet. Quelle a été votre expérience lors de cette ascension de la face nord? Donc, en hiver, c'était en mars 1992.
Comme je l'ai dit, comme je voulais faire une première tout court, c'était assez ambitieux. Il a fallu donc, comme je voulais le faire donc en hiver pour éviter les risques, il a fallu que je m'entraîne sérieusement. Et j'ai passé donc un an à faire pas mal de glace, de neige, de mixte, le mixte qu'on appelle du rocher mélangé avec de la glace et de la neige. Enfin tout. Donc on essaye d'utiliser toutes les techniques, à la fois de rocher puis de glace. Grimper en glace, ça veut dire planter des piolets et des crampons dans la glace et puis d'évoluer comme ça. Et moi, j'étais plutôt portée sur le rocher, je trouvais ça, c'était plutôt ma spécialité. Alors que la glace, pas du tout, elle me faisait peur, ça glisse. Et puis en plus, je trouvais que j'avais peu confiance au début dans les engins que j'avais dans les mains. Le piolet, quand on grimpe sur du rocher, on grimpe sans artifice, on grimpe avec les mains. Et là, tout d'un coup, j'avais un objet qui se retrouvait entre moi et la structure. Donc j'étais assez perturbée. Mais bon, à force d'en faire, acquérir plus d'expérience, j'ai réussi à avoir confiance en moi. Donc le jour où je me suis dit, ben, ça y est, je suis prête techniquement, je suis partie au pied. Et pour le faire dans la journée, je voulais avoir un sac très léger. Juste un sursac pour passer une nuit sans, à l'abri du vent, en tout cas, et une doudoune. J'avais un petit réchaud pour me réhydrater, parce que quand il fait froid, quand je l'ai fait, il faisait moins 15. Quand vous grimpez toute la journée, on déshydrate vite, et en cas de très grand froid, si vous arrêtez, vous risquez de vous geler les pieds et les mains. Si je m'étais arrêté, je me serais réhydraté. Donc j'avais tout ça, plus une corde au cas où je bute sur une difficulté ou quelque chose qui aurait pu être dangereux. De quoi redescendre en tout cas, et puis m'assurer si jamais il y avait un souci. Voilà. Donc, et puis là, je suis partie un jour quand la météo s'est présentée plutôt bonne pour la journée. Voilà. Donc après, quand on prépare beaucoup une ascension, on l'a presque déjà fait, quoi. Tellement on l'a imaginé, tellement j'avais lu de récits, que j'avais posé des questions à droite à gauche. Bon, c'était assez marrant, on a l'impression que c'était de la redite. J'étais pas du tout stressée lors de l'ascension elle-même. Et par contre, un endroit, ayant hésité sur un passage, je me suis jamais assurée, sauf une fois. Et cette fois-là, j'ai mis longtemps à me décider à m'assurer. Et du coup, j'ai perdu peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est 10 minutes précieux. En hiver, les journées sont moins longues. Je me suis retrouvée dans la dernière cheminée, prise par la pénombre. Et là, j'ai un peu hésité à soit je dors là, mais ça faisait plus de 10 heures que je grimpais. Je me suis dit, si je dors là tout de suite, il fait moins 15, demain matin j'aurai les pieds mains gelées. Donc j'ai décidé de bouger toute la nuit, et donc j'ai grimpé de nuit. Je suis arrivée à 22h au sommet. Voilà. Et là, je m'apprêtais à redescendre et tout de suite pour bouger. Et puis en fait, j'avais un duvet sur l'arête. Et en fait, mon ami américain qui était venu me donner des conseils dormait là-haut, il m'attendait. Du coup, j'ai dormi là-haut aussi. On est redescendu le lendemain matin.
Très bien. Alors, vous le précisiez tout à l'heure, vous avez réalisé cette ascension en solo. On a du mal à se figurer ce que doit être une telle aventure lorsque on l'entreprend seul. Quelles sont les émotions qui dominent? Est-ce que c'est avant tout une grande concentration ou est-ce qu'il y a tout de même de la place pour autre chose?
Ah, c'est que de la concentration. Il n'y a pas de place pour autre chose. Mmh. Non, non. C'est d'ailleurs ça qui est sympa en escalade, c'est qu'on ne peut pas penser à autre chose. Ça permet de faire le vide. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé l'escalade, j'étais jeune, j'avais 12, 13 ans, c'est un âge où on se pose des questions. Et du coup, l'escalade me faisait une pause dans mon esprit, en tout cas, et me permettait de me ressourcer et puis de repartir sur le bon pied. Et du coup, j'ai pas eu de crise d'ado comme d'autres peuvent les avoir. Et ça, c'est une soupape. L'escalade permet ça. Et ça, c'est très, très agréable. Mais donc, dans la gueule, non. Juste pour préconcentrer, un peu comme si on était dans une bulle, mais une bulle où tous les sens sont en alerte. Ça veut dire que malgré tout, on est ouvert à tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que s'il y a un petit truc qui tombe, enfin un petit glaçon ou une petite pierre qui peut tomber, ben on y est préparé, on est capable de goûter le son que fait le rocher ou la neige quand on met le pied. Enfin, ouais, on est en alerte, prêt à réagir en cas de s'il y a un truc qui va de travers, mais réagir positivement parce qu'on y est prêt. On n'est pas, on va pas être affolé. C'est très important. Mais ça veut dire que on est capable de le faire que quand on a beaucoup, beaucoup préparé une ascension et qu'on estime que, enfin, moi, j'estimais que j'avais de la marge pour faire ça sans prendre de risque.
Alors, Catherine, justement, le risque, le danger fait indéniablement partie du jeu, si j'ose dire. Pourtant, les alpinistes se défendent souvent d'être des têtes brûlées. Quel est votre propre rapport au danger?
Je travaille beaucoup. Le danger, c'est de faire un faux pas et de tomber. A priori, si on décide de le faire, c'est quand même qu'on a de la marge et qu'on est assez concentré et assez fort pour se permettre d'y aller sans assurance, mais pas pour autant prendre des risques. Évidemment, l'erreur n'est pas tolérée, enfin, c'est impossible, mais on n'y va pas dans cet esprit-là. Par contre, c'est vrai que ça rajoute un peu de piment de se dire j'ai pas le droit de tomber, quoi. Donc, c'est vrai que notre position est ambiguë. À la fois, on est persuadé qu'on va y arriver bien, et en même temps, s'il n'y avait pas ce petit risque, est-ce qu'on serait aussi excité de le faire? Ça, c'est encore un vaste sujet, mais je ne suis pas philosophe ni psychologue. C'est vrai que ça m'amuse. Jusqu'à présent, quand j'ai fait ce genre de choses, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Et d'ailleurs, c'est très agréable parce on se sent, dans ces cas-là, ce sont des moments privilégiés, on se sent tellement presque invulnérable qu'on se sent super fort, et ça, c'est assez agréable. Mais tout en sachant qu'on a quand même beaucoup de marge et que on n'est pas au maximum, enfin, moi, j'ai jamais été au maximum de ce que j'étais capable de faire, les autres jours, quoi. Donc, bon, ça va, quoi, c'était bien. Après, je pense que mon mental est assez fort, mais mon mental est fort parce que j'ai beaucoup travaillé en amont.
Alors, Catherine, vous êtes la première femme à avoir réalisé cette ascension en solo. Vous savez que lorsqu'on est une femme qui évolue dans des milieux très masculins, la société, les médias ont tendance à vous ériger en modèle. Est-ce que vous êtes déjà senti une certaine responsabilité vis-à-vis des femmes alpinistes et des femmes tout court?
Moi, je me suis jamais posé la question. C'est peut-être la première féminine, c'était la première tout court. C'est-à-dire qu'aucun garçon l'avait fait de cette façon-là avant. Voilà, ce qui m'agace, c'est quand on dit ouais, c'était la première féminine. Non, oui, c'est la première féminine, mais pas que. Et du coup, après, je pense comme une alpiniste, un alpiniste, je pense pas fille garçon. En fait, quand on a des projets, enfin, moi, quand j'ai eu des projets, j'ai toujours fait attention justement que ce soit des performances à peu près, enfin, équivalentes. Du coup, quand les femmes me disent, ouais, tu m'as inspiré et tout, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai fait attention à la façon dont je faisais les choses. Comme je dis, je suis alpiniste, pas femme alpiniste. J'aurais pu faire n'importe quoi, hein, je sais pas, grimper la tour Eiffel, etc. Parce que j'étais une femme, j'aurais eu plein de pubs, mais c'est pas très intéressant. Et puis faire des voix qui ont jamais été faites par des femmes, bon, ben voilà, ben alors que c'était fait plein de fois par des hommes. Mais je trouve ça pas juste. J'ai toujours fait attention à ce que mes projets veuillent dire aussi quelque chose dans le monde de l'alpinisme, des alpinistes.
Alors, parmi les alpinistes que nous avons eu le plaisir d'interviewer pour cette série d'émissions, un certain nombre ne sont pas des montagnards de naissance. C'est votre cas et vous avez fait vos premières armes à Fontainebleau. Alors, comment s'est passée votre rencontre avec la haute montagne?
Bah, en fait, Fontainebleau, il faut savoir que les alpinistes, depuis 1900 jusqu'à, je dirais, 1980, les meilleurs alpinistes, c'était quand même des Parisiens. C'était des Parisiens parce qu'ils s'entraînaient à Fontainebleau. Justement, parce qu'ils pouvaient y aller tous les week-ends, grimper, faire des passages techniques en rocher, ce que ne pouvaient pas faire les gens locaux sur place parce qu'il y a de la neige et qu'ils peuvent pas grimper sur du rocher toute l'année. Alors ces Parisiens, quand ils arrivaient en montagne à Chamonix, ils étaient super forts et ils ont ouvert des voies que les chamoignards ou les gens voisins ne faisaient pas parce qu'ils avaient acquis une technique et puis de la force que les autres n'avaient pas. Donc en fait, moi, mon parcours est assez classique. Quand on parle de Maison, quand on parle de Pierre Alain ou de Jacques de Lépinay, Jacques de Lépinay, ça a été le précurseur de cet entraînement à Fontainebleau tous les dimanches. J'étais complètement dans le mood et c'est pour cette raison que je me disais Fontainebleau, c'est le passage obligé pour aller en montagne. Et quand j'allais à Fontainebleau, je m'entraînais pour aller en montagne. C'était ça le jeu. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les gens font du bloc, on appelle le bloc, les petits rochers de Fontainebleau. Ils font du bloc que pour le bloc. C'est un jeu en lui-même. Moi, j'ai aussi des amis de ma génération qui faisaient du bloc que pour le bloc, que pour la gestuelle, que pour le jeu. Chacun, je trouvais son équilibre comme ça. Et moi, j'avoue que j'aimais le bloc, mais j'aimais aussi transférer ce niveau en montagne. Et c'est pour cette raison que les Parisiens, pendant très longtemps, ont été très bons alpinistes. Et c'était pas une surprise dans la montagne, parce que justement, ils s'entraînaient pour y aller.
Alors, parmi les ascensions que vous avez entreprises en montagne, il y a beaucoup de sommets alpins. Pourquoi cet amour des Alpes ?
Parce que chez nous, simplement, à vrai dire, je n'ai pas posé la question. En fait, nous, on a quand même en France, on a une culture de l'alpinisme qui est présente. En Italie aussi, en Suisse aussi. Donc, il y a trois pays dans lesquels j'ai beaucoup grimpé. Effectivement, c'est là. En cherchant plus particulièrement les parois de rochers, parce que j'étais plus ce qu'on appelle, nous, une rochassière. Et on a beaucoup, beaucoup de chance comparé à même aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des belles parois, mais d'abord, tout est loin. Enfin, tout est beaucoup plus vaste. Nous, en plus, c'est une échelle humaine avec des chemins aménagés qui nous emmènent assez loin dans les vallées, avec des refuges possibles, avec... voilà, c'est l'aventure à la porte de la maison, quoi. On a beaucoup, beaucoup de chance. Après, partir en Himalaya, c'est un autre périple. Ça demande plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est un autre engagement. Dans les Alpes, vous pouvez y aller une semaine, vous vous amusez bien, et puis c'est court. Vous-même, vous pouvez, quand vous habitez sur place, vous y allez à la matinée ou à la journée. Et on en profite bien. Et pourquoi les Alpes? C'est pour cette raison-là, essentiellement.
Alors aujourd'hui, Catherine, avec le palmarès qui est le vôtre, après les belles ascensions réalisées, quel est votre rapport à la montagne et à l'alpinisme? Est-ce qu'il a un peu évolué?
Aujourd'hui, il a un peu évolué, forcément. Bon, j'aime la montagne, hein, mais aujourd'hui, je suis devenue éditrice. Je fais des livres de montagne. Je publie des livres de montagne. Je les écris pas, je les publie. Bah, du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps à chercher des textes, à chercher des sujets, à les travailler. Bon, j'ai 5 collections, j'ai des beaux livres, des livres techniques, des livres pour enfants, des récits authentiques, souvent issus de traductions. Maintenant, j'ai même des petits thrillers, Mont Blanc Noir, ça me prend beaucoup de temps, j'aime ça. J'aime faire cette activité d'éditrice. Ça me permet de partager ce qui m'anime, ce qui me plaît en montagne et en escalade. Et du coup, de faire toucher du doigt au public pourquoi tous ces alpinistes existent et pourquoi ils font ça, etc. Donc, c'est passionnant. Alors, il y a, évidemment, c'est comme dans la littérature, il y a un peu de tout. Et à la montagne, je le fais à travers les récits aujourd'hui, et en quelques petites vacances de temps en temps ou un week-end par-ci par-là, mais je dirais que je fais des choses que je n'avais jamais faites avant, parce que j'estimais que c'est trop facile. Je fais des voix avec ma famille, avec mes frères et sœurs, je partage des choses différentes et ça me plaît, parce que c'est juste beau et puis voilà, c'est sympa. Donc j'y retourne un peu comme ça, juste pour être en montagne et pour prendre le bon air et puis faire des choses qui pas trop compliquées, quoi.
Un grand merci à vous, Catherine Destivelle. Nous aurons la joie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Justement, il sera consacré entièrement aux éditions que vous avez créées en 2011, les éditions du Mont Blanc. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Catherine Destivelle l'évoquait. L'aigre est surnommé l'ogre. Malgré un rapprochement phonétique évident et une tendance à dévorer les alpinistes malchanceux, ça n'est pas la traduction du mot allemand. Aigre signifie plus simplement pointe élevée. Entre son esthétisme indéniable et le défi qu'il représente pour les alpinistes, l'aigre a été quelque peu victime de son succès, et le bon air des Alpes attirant de plus en plus de touristes au XIXe siècle, les autorités ont donné leur feu vert pour la construction en 1840 d'un grand hôtel luxueux, celui dont parlait Catherine Destivelle, l'hôtel Bellevue des Alpes, dans lequel ont séjourné la plupart des alpinistes qui ont tenté l'ascension au début du XXe siècle.
Encore plus étonnant, nos amis suisses ont eu la drôle d'idée de construire une voie de chemin de fer qui passe dans la montagne. La Jungfraubahn, longue de 9 km environ, a longtemps été la ligne de chemin de fer la plus haute d'Europe, reliant la station de Kleinscheidegg au pied de la face nord de l'Eiger, et donc l'hôtel Bellevue des Alpes, à un autre grand sommet suisse à proximité, la Jungfrau. La ligne, bien que déjà controversée à l'époque, est toujours en activité aujourd'hui, et la station Eismir, mer de glace, qui se trouve à l'intérieur même de l'Eiger, permet, via des fenêtres dans le versant sud de la montagne, d'avoir une vue imprenable et surtout vertigineuse.
Pour finir cette émission, retrouvons le journaliste britannique Peter Gilman. Dans le livre qu'il a coécrit avec son épouse Lenny, L'Eiger extrême, compétition et drame en face nord, paru aux éditions du Mont-Blanc Catherine d'Estivel en 2019, il évoque son retour à l'hôtel Bellevue des Alpes en 2014, près de 50 ans après avoir couvert l'ascension de la face nord de l'Eiger par deux équipes d'alpinistes en 1966. Observant leur progression depuis l'hôtel avec un télescope, il avait assisté, impuissant et horrifié, à la chute de l'alpiniste américain John Harlin.
En haut d'une volée de marches en pierre, des portes battantes s'ouvraient sur l'hôtel le plus grand et le plus ancien de la Kleinscheidegg. Nous avions une chambre où je le souhaitais avec vue sur l'Eiger sous deux angles. La face nord s'encadrait dans la fenêtre, mise en relief par la lumière éclatante sur le versant ouest et le glacier qui jouxtait la Monge. Même dans l'ombre, les passages mythiques de la paroi apparaissaient clairement. Le deuxième névé, la traversée des dieux, la marque blanche de l'araignée dont les pattes s'éparpillaient dans le rocher noir environnant, les fissures de sortie menant au sanctuaire du névé sommital, où la pente s'adoucissait enfin jusqu'à l'arête que la lumière du soleil parcourait. Je fixais la paroi en essayant de mesurer toute sa signification, mais au bout d'un moment bouleversé, je me détournais. C'est là que je venais observer l'Eiger pour discerner les deux groupes concurrents dans l'ascension d'une nouvelle voie audacieuse en face nord et pour évaluer leur progression alors qu'ils rivalisaient pour prendre la tête. L'escalade prit plus d'un mois, mais un jour différa des autres. Après 4 semaines, les grimpeurs étaient prêts à tenter le sommet. Un groupe avait de l'avance, l'autre essayait de rattraper son retard. On avait évoqué une fusion des deux équipes, mais sans décider. Pour retrouver le point le plus élevé de l'ascension, les alpinistes remontaient les cordes fixes installées dans la face pour le hissage du matériel. Dans l'après-midi, une corde se rompit. Juste au moment où je regardais dans le télescope, ce que je vis ne quittera jamais ma mémoire.
Ainsi s'achève ce numéro d'À la hauteur, passé en compagnie de deux légendes, la face nord de l'Eiger et l'une de ceux qui l'ont vaincue, Catherine d'Estivel. Nous la remercions vivement d'avoir répondu à nos questions et nous la retrouvons dans une prochaine émission, cette fois pour évoquer sa reconversion réussie dans le monde de l'édition. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre un extrait du livre « Rêve de montagne » de John Krakauer, sorti en 1999 aux éditions Les Presses de la Cité, mais aussi un extrait du documentaire « Au-delà des cimes » consacré à Catherine d'Estivel, réalisé par Rémi Thésier avec la voix de Bernard Giraudot. Et enfin, un extrait du livre de Peter et Lenny Gilman, « L'Eiger extrême, compétition et drame en face nord », paru en 2019, aux éditions du Mont-Blanc, Catherine d'Estivel.
Côté musique, vous avez pu entendre des extraits de la pièce Sérendipity de Leila Martial, Butterfly de Susanna Tedeschi, et pour nous quitter, la belle mais inquiétante partition de la compositrice Elena Toulve, interprétée par l'Estonian Festival Orchestra, dirigée par Parvo Jarvi. À très bientôt pour une nouvelle ascension.